Les frères Karamazov, livre 12. Une erreur judiciaire. Chapitre 1. Le jour fatal. Le lendemain des événements que nous avons narrés, à 10 heures du matin, la séance du tribunal s'ouvrit et le procès de Dmitri Karamazov commença. Je dois déclarer au préalable qu'il m'est impossible de relater tous les faits dans leur ordre détaillé. Un tel exposé demanderait, je crois, un gros volume. Aussi, qu'on ne m'en veuille pas de me borner à ce qui m'a paru le plus frappant. J'ai pu prendre l'accessoire pour l'essentiel et omettre des traits caractéristiques. D'ailleurs, inutile de m'excuser, je fais de mon mieux et les lecteurs le verront bien. Avant de pénétrer dans la salle, mentionnons ce qui causait la surprise générale. Tout le monde connaissait l'intérêt soulevé par ce procès, impatiemment attendu, les discussions et les suppositions qu'il provoquait depuis 2 mois. On savait aussi que cette affaire avait du retentissement dans toute la Russie, mais on ne pensait pas qu'elle pût susciter une pareille émotion ailleurs que chez nous. Il vint du monde, non seulement du chef-lieu, mais d'autres villes, et même de Moscou et de Pétersbourg, des juristes, des notabilités, ainsi que des dames. Toutes les cartes furent enlevées en moins de rien. Pour les visiteurs de marque, on avait réservé des places derrière la table où siégeait le tribunal. On y installa des fauteuils, ce qui ne s'était jamais vu. Les dames, fort nombreuses, formaient au moins la moitié du public. Il y avait tellement de juristes qu'on ne savait où les mettre, toutes les cartes étant distribuées depuis longtemps. On édifia à la hâte, au fond de la salle, derrière l'estrade, une séparation à l'intérieur de laquelle ils prirent place, s'estimant heureux de pouvoir même rester debout, car on avait enlevé toutes les chaises pour gagner de l'espace. Et la foule rassemblée assista au procès, debout, en masse compacte. Certaines dames, surtout les nouvelles venues, se montrèrent aux galeries excessivement parées, mais la plupart ne songeaient pas à la toilette. On lisait sur leurs visages une avide curiosité. Une des particularités de ce public, digne d'être signalée et qui se manifesta au cours des débats, c'était la sympathie qu'éprouvait pour Mitya l'énorme majorité des dames, sans doute parce qu'il avait la réputation de captiver les cœurs féminins. Elle désirait le voir acquitté. On escomptait la présence des deux rivales. Catherine Ivanovna surtout excitait l'intérêt général. On racontait des choses étonnantes sur elle, sur la passion dont elle brûlait encore pour Mitya malgré son crime. On rappelait sa fierté. Elle n'avait fait de visite presque à personne. Ses relations aristocratiques. On disait qu'elle avait l'intention de demander au gouvernement l'autorisation d'accompagner le criminel au bagne et de l'épouser dans les mines, sous terre. L'apparition de Grushenka n'éveillait pas moins d'intérêt. On attendait avec curiosité la rencontre à l'audience des deux rivales, l'aristocratique jeune fille et l'Étaïre. D'ailleurs, nos dames connaissaient mieux Grushenka, qui avait perdu Fyodor Pavlovitch et son malheureux fils. Et la plupart s'étonnaient qu'une femme aussi ordinaire, pas même jolie, ait pu rendre à ce point amoureux le père et le fils. Je sais pertinemment que dans notre ville, de sérieuses querelles de famille éclatèrent à cause de Mitya. Beaucoup de dames se disputaient avec leur mari, par suite de désaccords sur cette triste affaire, et on comprend que ceci arrivait à l'audience, non seulement mal disposé envers l'accusé, mais aigri contre lui. En général, à l'inverse des dames, l'élément masculin était hostile aux prévenus. On voyait des visages sévères, renfrognés, d'autres courroucés, et cela en majorité. Il est vrai que Mitya avait insulté bien des gens durant son séjour parmi nous. Assurément, certains spectateurs étaient presque gais et fort indifférents au sort de Mitya, tout en s'intéressant à l'issue de l'affaire. La plupart désiraient le châtiment du coupable, sauf peut-être les juristes, qui n'envisageaient le procès que du point de vue juridique, en négligeant le côté moral. L'arrivée de Fetioukovitch, réputé pour son talent, agitait tout le monde. Ce n'était pas la première fois qu'il venait en province plaider des procès criminels retentissants, dont on gardait ensuite longtemps le souvenir. Il circulait des anecdotes sur notre procureur et le président du tribunal. On racontait que le procureur tremblait de se rencontrer avec Fetioukovitch, avec qui il avait eu des démêlés à Pétersbourg au début de sa carrière. Notre susceptible Hippolyte Kirillovitch, qui s'estimait lésé parce qu'on n'appréciait pas convenablement son mérite, avait repris courage avec l'affaire Karamazov et rêvait même de relever sa réputation ternie. Mais Fetioukovitch lui faisait peur. Ses assertions n'étaient pas tout à fait justes. Notre procureur n'était pas de ces caractères qui se laissent aller devant le danger, mais, au contraire, de ceux dont l'amour-propre grandit, s'exalte précisément en proportion du danger. En général, notre procureur était trop ardent, trop impressionnable. Il mettait parfois toute son âme dans une affaire, comme si de sa décision dépendait son sort et sa fortune. Dans le monde judiciaire, on souriait de ce travers, qui avait valu à notre procureur une certaine notoriété, plus grande qu'on aurait pu le croire, d'après sa situation modeste dans la magistrature. On riait surtout de sa passion pour la psychologie. À mon avis, tous se trompaient. Notre procureur était, je crois, d'un caractère bien plus sérieux que beaucoup ne le pensaient. Mais cet homme maladif n'avait pas su se poser au début de sa carrière, ni par la suite. Quant au président du tribunal, c'était un homme instruit, humain, ouvert aux idées les plus modernes. Il avait passablement d'amour-propre, mais toute son ambition se bornait à être tenu pour progressiste. Il possédait d'ailleurs des relations et de la fortune. On constata ensuite qu'il s'intéressait assez vivement à l'affaire Karamazov, mais dans un sens purement général, en tant que phénomène classé, envisagé comme la résultante de notre régime social, comme une caractéristique de la mentalité russe, etc. Quant au caractère particulier de l'affaire, à la personnalité de ses acteurs, à commencer par l'accusé, cela ne présentait pour lui qu'un intérêt vague, abstrait, comme il convenait d'ailleurs, peut-être. Longtemps avant l'heure, la salle était comble. C'est la plus belle de la ville, vaste, haute, sonore. À droite du tribunal, qui siégeait sur une estrade, on avait installé une table et deux rangs de fauteuils pour le jury. À gauche se trouvait la place de l'accusé et de son défenseur. Au milieu de la salle, près des juges, les pièces à conviction figuraient sur une table. La robe de soie blanche de Fiodor Pavlovitch ensanglantée, le pilon de cuivre, instrument présumé du crime, la chemise et la redingote de Mitya, toutes tachées vers la poche où il avait fourré son mouchoir, le dit mouchoir où le sang formait une croûte, le pistolet chargé chez Perkotine pour le suicide de Mitya et enlevé furtivement par Trifon Borisitch à Mokroyé, l'enveloppe des 3 000 roubles destinés à Krouchenka, la faveur rose qui la ficelait, d'autres objets encore que j'ai oubliés. Plus loin, au fond de la salle, se tenait le public, mais devant la balustrade, on avait disposé des fauteuils pour les témoins qui resteraient dans la salle après leur déposition. À 10 heures, le tribunal composé du président, d'un assesseur et d'un juge de paix honoraire fit son entrée. Le procureur arriva au même instant. Le président était robuste et ragot, le visage congestionné, une 50aine d'années, les cheveux grisonnants coupés courts et décorés. Le procureur parut à tout le monde étrangement pâle, le teint presque verdâtre, maigri pour ainsi dire subitement, car je l'avais vu l'avant-veille dans son état normal. Le président commença par demander à l'huissier si tous les jurés étaient présents. Mais il m'est impossible de continuer ainsi, certaines choses m'ayant échappé, et surtout parce que, comme je l'ai déjà dit, le temps et la place me manqueraient pour un compte-rendu intégral. Je sais seulement que la défense et l'accusation ne récusèrent qu'un petit nombre de jurés. Le jury se composait de 4 fonctionnaires, deux négociants, six petits bourgeois et paysans de notre ville. Longtemps avant le procès, je me souviens qu'en société, on se demandait, surtout les dames, « Est-il possible qu'une affaire à la psychologie aussi compliquée soit soumise à la décision de fonctionnaires et de croquants? Qu'est-ce qu'ils y comprendront ?» Effectivement, les quatre fonctionnaires faisant partie du jury étaient de petites gens, déjà grisonnants, sauf un, peu connu dans notre société, ayant végété avec de chétifs appointements. Il devait avoir de vieilles femmes, impossibles à exhiber, et une ribambelle d'enfants, qui couraient peut-être nu-pieds. Les cartes charmaient leur loisir, et ils n'avaient, bien entendu, jamais rien lu. Les deux hommes de négoce avaient l'air posés, mais étrangement taciturnes et immobiles. L'un d'eux était rasé et habillé à l'européenne, l'autre, à la barbe grise, portait au cou une médaille. Rien à dire des petits bourgeois et paysans de Skoto-Prigonievsk. Les premiers ressemblent fort aux seconds et labourent comme eux. Deux d'entre eux portaient aussi le costume européen, ce qui les faisait paraître plus malpropres et plus laids peut-être que les autres. Si bien qu'on se demandait involontairement, comme je fis en les regardant, « Qu'est-ce que ces gens peuvent bien comprendre à une affaire de ce genre ?» Néanmoins, leurs visages, rigides et renfrognés, avaient une expression imposante. Enfin, le président appela la cause et ordonna d'introduire l'accusé. Un profond silence régna. On aurait entendu voler une mouche. Mitya me produisit une impression des plus défavorables. Il se présenta en dandy, habillé de neuf, des gants glacés, du linge fin. J'ai su depuis qu'il s'était commandé pour cette journée une redingote à Moscou chez son ancien tailleur qui avait conservé sa mesure. Il s'avança à grands pas, raide, regardant droit devant lui, et s'assit d'un air impassible. En même temps parut son défenseur, le célèbre Fetioukovitch. Un murmure discret parcourut la salle. C'était un homme grand et sec, aux jambes grêles, aux doigts exsangues et effilés, les cheveux courts, le visage glabre, et dont les lèvres minces se plissaient parfois d'un sourire sarcastique. Il paraissait 40 ans. Le visage eût été sympathique sans les yeux, dénué d'expression et très rapproché du nez, qu'il avait long et mince. Bref, une physionomie d'oiseau. Il était en habit et en cravate blanche. Je me rappelle fort bien l'interrogatoire d'identité. Mitya répondit d'une voix si forte qu'elle surprit le président. Puis on donna lecture de la liste des témoins et experts. Quatre d'entre eux faisaient défaut. Miusov, retourné à Paris, mais dont la déposition figurait au dossier. Madame Koklakov et le propriétaire foncier Maximov, pour cause de maladie. Smerdiakov, décédé subitement, comme l'attestait un rapport de police. La nouvelle de sa mort fit sensation. Beaucoup de personnes ignoraient encore son suicide. Ce qui frappa surtout fut une sortie de Mitya à ce propos. « À chien, mort de chien » s'écria-t-il. Son défenseur s'élança vers lui, le président le menaça de prendre des mesures sévères en cas de nouvelle algarade. Mitya répéta plusieurs fois à l'avocat, à mi-voix et sans regret apparent, « Je ne le ferai plus, ça m'a échappé, je ne le ferai plus. » Cet épisode ne témoignait pas en sa faveur aux yeux des jurés et du public. Il donnait un échantillon de son caractère. Ce fut sous cette impression que le greffier lut l'acte d'accusation. Il était concis, se bornant à l'exposé des principaux motifs d'inculpation. Néanmoins, je fus vivement impressionné. Le greffier lisait d'une voix nette et sonore. Toute la tragédie apparaissait en relief, éclairée d'une lumière implacable. Après quoi, le président demanda à Mitya « Accusé, vous reconnaissez-vous coupable ?» Mitya se leva. « Je me reconnais coupable d'ivresse, de débauche et de paresse, » dit-il avec exaltation. « Je voulais me corriger définitivement alors même où le sort m'a frappé. Mais je suis innocent de la mort du vieillard. mon père est mon ennemi. Je ne l'ai pas volé non plus. Non, j'en suis incapable. Dmitri Karamazov peut être un vaurien, mais un voleur, non pas. » Il se rassit, frémissant. Le président l'invita à répondre uniquement aux questions. Ensuite, les témoins furent appelés pour prêter serment. Les frères de l'accusé furent dispensés de cette formalité. Après les exhortations du prêtre et du président, on fit sortir les témoins pour les rappeler à tour de rôle. Chapitre 2. Des témoins dangereux. J'ignore si les témoins à charge et à décharge avaient été groupés par le président, et si on se proposait de les appeler dans un ordre voulu. C'est probable. En tout cas, on commença par les témoins de l'accusation. Encore un coup, je n'ai pas l'intention de reproduire in extenso les débats. D'ailleurs, ce serait en partie superflu, car le réquisitoire et la plaidoirie résumèrent clairement la marche et le sens de l'affaire, ainsi que les dépositions des témoins. J'ai noté intégralement par endroits ces deux remarquables discours que je citerai en leur temps, de même qu'un épisode inattendu du procès, qui a indubitablement influé sur son issue fatale. Dès le début, la solidité de l'accusation et la faiblesse de la défense s'affirmèrent aux yeux de tous. On vit les faits se grouper, s'accumuler, et l'horreur du crime s'étalait peu à peu au grand jour. On se rendit compte que la cause était entendue, le doute impossible, que les débats n'auraient lieu que pour la forme, la culpabilité de l'accusé étant archi-démontrée. Je pense même qu'elle ne faisait aucun doute pour toutes les dames qui attendaient avec une telle impatience l'acquittement de l'intéressant prévenu. Plus encore, il me semble qu'elles se fussent affligées d'une culpabilité moins évidente, car cela eût diminué l'effet du dénouement. Chose étrange, toutes les dames crurent à l'acquittement presque jusqu'à la dernière minute. « Il est coupable, mais on l'acquittera par humanité, au nom des idées nouvelles, etc. » Voilà pourquoi elles étaient accourues avec tant d'empressement. Les hommes s'intéressaient surtout à la lutte du procureur et du fameux Fetioukovitch. Tous se demandaient ce que celui-ci, avec tout son talent, pourrait faire d'une cause perdue d'avance. Aussi l'observait-on avec une attention soutenue. Mais Fetioukovitch demeura jusqu'au bout une énigme. Les gens expérimentés pressentaient qu'il avait un système, qu'il poursuivait un but, mais il était presque impossible de deviner lequel. Son assurance sautait pourtant aux yeux. En outre, on remarqua avec satisfaction que, durant son court séjour parmi nous, il s'était remarquablement mis au courant de l'affaire et qu'il l'avait étudiée dans tous ses détails. On admira ensuite son habileté à discréditer tous les témoins de l'accusation, à les dérouter autant que possible, et surtout à ternir leur réputation morale, et par conséquent, leur déposition. D'ailleurs, on supposait qu'il agissait ainsi beaucoup par jeu, pour ainsi dire, par coquetterie juridique, afin de mettre en œuvre tous ses procédés d'avocat. Car on pensait bien que ces dénigrements ne lui procureraient aucun avantage définitif, et lui-même probablement le comprenait mieux que personne. Il devait tenir en réserve une idée, une arme cachée, qu'il démasquerait au moment voulu. Pour l'instant, conscient de sa force, il paraissait folâtré. Ainsi, lorsqu'on interrogea Grigori Vassilievitch, l'ancien valet de chambre de Fiodor Pavlovitch, qui affirmait avoir vu la porte de la maison ouverte. Le défenseur s'attacha à lui, quand ce fut son tour de lui poser des questions. Grigori Vassilievitch parut à la barre sans être le moins du monde troublé par la majesté du tribunal ou la présence d'un nombre public. Il déposa avec la même assurance que s'il s'était entretenu en tête-à-tête avec sa femme, mais avec plus de déférence. Impossible de le dérouter. Le procureur l'interrogea longtemps sur les particularités de la famille Karamazov. Grigori en fit un tableau suggestif. On voyait que le témoin était ingénu et impartial. Malgré tout son respect pour son ancien maître, il déclara que celui-ci avait été injuste envers Mitya et n'élevait pas les enfants comme il faut. Sans moi, il eût été rongé par les poux, dit-il en parlant de la petite enfance de Mitya. De même, le père n'aurait pas dû faire tort au fils pour le bien qui lui venait de sa mère. Le procureur, lui ayant demandé ce qui lui permettait d'affirmer que Fiodor Pavlovitch avait fait tort à son fils lors du règlement de compte, Grigori, à l'étonnement général, n'apporta aucun argument décisif, mais persista à dire que ce règlement n'était pas juste et que Mitya aurait dû recevoir encore quelques milliers de roubles. À ce propos, le procureur interrogea avec une insistance particulière tous les témoins présumés au courant, y compris les frères de l'accusé, mais aucun d'eux ne le renseigna d'une façon précise, chacun affirmant la chose sans pouvoir en fournir une preuve tant soit peu exacte. Le récit de la scène, à table, où Dmitri Fiodorovitch fit irruption et battit son père, en menaçant de revenir le tuer, produisit une impression sinistre, d'autant plus que le vieux domestique narrait avec calme et concision, dans un langage original, ce qui faisait beaucoup d'effet. Il déclara que l'offense de Mitya, qu'il avait alors frappé au visage et renversé, était depuis longtemps pardonnée. Quant à Smerdiakov, il se signa. C'était un garçon doué, mais déprimé par la maladie, et surtout impie, ayant subi l'influence de Fiodor Pavlovitch et de son fils aîné. Il attesta avec chaleur son honnêteté, racontant l'épisode de l'argent trouvé et rendu par Smerdiakov à son maître, ce qui lui valut, avec une pièce d'or, la confiance de celui-ci. Il soutint opiniâtrement la version de la porte ouverte sur le jardin. D'ailleurs, on lui posa tant de questions que je ne puis me les rappeler toutes. Enfin, ce fut le tour du défenseur, qui s'informa d'abord de l'enveloppe où, soi-disant, Fiodor Pavlovitch avait caché 3 000 roubles pour une certaine personne. « L'avez-vous vu, vous qui approchiez depuis si longtemps votre maître ?» Grigori répondit que non, et qu'il ne connaissait l'existence de cet argent que depuis que tout le monde en parlait. Cette question relative à l'enveloppe, Fetioukovitch la posa chaque fois qu'il put au témoin, avec autant d'insistance que le procureur en avait mis à se renseigner sur le partage du bien. Tous répondirent qu'ils n'avaient pas vu l'enveloppe, quoique beaucoup en eussent entendu parler. La persistance du défenseur fut remarquée dès le début. « Maintenant, pourrais-je vous demander, » reprit Fetioukovitch, « de quoi se composait ce baume, ou plutôt cette infusion dont vous vous êtes frotté les reins avant de vous coucher le soir du crime, comme il ressort de l'instruction ?» Grigori le regarda d'un air hébété et, après un silence, murmura. « Il y a de la sauge. »« Seulement de la sauge, rien de plus ?» Et du plantain. « Et du poivre, peut-être ?» Il y avait aussi du poivre. « Et tout ça avec de la vodka ?»« Avec de l'alcool. » Un léger rire parcourut l'assistance. « Voyez-vous, même de l'alcool. Après vous être frotté le dos, vous avez bu le reste de la bouteille, avec une pieuse prière connue de votre épouse seule, n'est-ce pas ?»« Oui. En avez-vous pris beaucoup ?» Un ou deux petits verres?
Le contenu d'un verre.
Autant que ça. Un verre et demi, peut-être.
Grigori garda le silence. Il semblait comprendre. Un verre et demi d'alcool pur, ce n'est pas mal, qu'en pensez-vous? Avec ça, on peut voir ouvertes les portes du paradis.
Grigori se taisait toujours. Un nouveau rire fusa. Le président s'agita. Pourriez-vous dire, insista Fetioukovitch, si vous reposiez quand vous avez vu la porte du jardin ouverte?
J'étais sur mes jambes.
Cela ne veut pas dire que vous ne reposiez pas.
Nouveau rire.
Auriez-vous pu répondre à ce moment-là si quelqu'un vous avait demandé, par exemple, en quelle année nous sommes?
Je ne sais pas.
Eh bien, en quelle année sommes-nous depuis la naissance de Jésus-Christ, le savez-vous?
Grigori, l'air dérouté, regardait fixement son bourreau. Son ignorance de l'année actuelle paraissait étrange. « Peut-être savez-vous combien vous avez de doigts aux mains ?»«
J'ai l'habitude d'obéir, » proféra soudain Grigori. « S'il plaît aux autorités de se moquer de moi, je dois le supporter. »
Fetioukovitch resta un peu déconcerté. Le président intervint et lui rappela qu'il devait poser des questions plus en rapport avec l'affaire. L'avocat répondit avec déférence qu'il n'avait plus rien à demander. Assurément, la déposition d'un homme, ayant vu les portes du paradis et ignorant en quelle année il vivait, pouvait inspirer des doutes, de sorte que le but du défenseur se trouva atteint. Un incident marqua la fin de l'interrogatoire. Le président lui ayant demandé s'il avait des observations à présenter, Mitya s'écria
« Sauf pour la porte, le témoin a dit la vérité. Je le remercie de m'avoir enlevé la vermine et pardonné mes coups. Ce vieillard fut toute sa vie honnête et fidèle à mon père, comme 36 caniches.
« Accusé, choisissez vos expressions, » dit sévèrement le président.
« Je ne suis pas un caniche, »
grommela Grigori.
« Eh bien, c'est moi qui suis un caniche !» cria Mitya. « Si c'est une offense, je la prends à mon compte. J'ai été brutal et violent avec lui. Avec Ésope aussi. »«
Quel Ésope ?» releva sévèrement le président.
« Mais Pierrot, mon père, Fiodor Pavlovitch !»
Le président exhorta de nouveau Mitya à choisir ses termes avec plus de prudence. « Vous vous nuisez ainsi dans l'esprit de vos juges. » Le défenseur procéda tout aussi adroitement avec Rakitin, un des témoins les plus importants, un de ceux auxquels le procureur tenait le plus. Il savait une masse de choses, avait tout vu, causé avec une foule de gens, et connaissait à fond la biographie de Fiodor Pavlovitch et des Karamazov. À vrai dire, il n'avait entendu parler de l'enveloppe aux 3 000 roubles que par Mitya. En revanche, il décrivit en détail les prouesses de Mitya au cabaret, à la capitale. Ses paroles et ses actes compromettants, raconta l'histoire du capitaine Snegiryov, dit Torchon de Tille. Quant à ce que le père pouvait redevoir au fils lors du règlement de compte, Rakitine lui-même n'en savait rien, et s'en tira par des généralités méprisantes. Impossible de comprendre lequel avait tort et de s'y reconnaître dans le gâchis des Karamazov. Il représenta ce crime tragique comme le produit des mœurs arriérées du servage et du désordre où était plongée la Russie, privée des institutions nécessaires. Bref, on le laissa discourir. C'est depuis ce procès que M. Rakitine se révéla et attira l'attention. Le procureur savait que le témoin préparait, pour une revue, un article relatif au crime, et en cita, comme on le verra plus loin, quelques passages dans son réquisitoire. Le tableau peint par le témoin parut sinistre et renforça l'accusation. En général, l'exposé de Rakitine plut au public par l'indépendance et la noblesse de la pensée. On entendit même quelques applaudissements lorsqu'il parla du servage et de la Russie en proie à la désorganisation. Mais Rakitine, qui était jeune, commit une bévue dont le défenseur sut aussitôt profiter. Interrogé au sujet de Grushenka et entraîné par son succès et la hauteur morale où il avait plané, il s'exprima avec quelque dédain sur Agrafena Alexandrovna, entretenue par le marchand Samsonov. Il eût donné beaucoup ensuite pour retirer cette parole, car ce fut là que Fetioukovitch l'attrapa. Et cela parce que Rakitine ne s'attendait pas à ce que celui-ci pût s'initier en si peu de temps à des détails aussi intimes.
« Permettez-moi une question, » commença le défenseur avec un sourire aimable et presque déférent.
« Vous êtes bien, monsieur Rakitine, l'auteur d'une brochure éditée par l'autorité diocésaine, Vie du bienheureux père Sosime, pleine de pensées religieuses, profonde, avec une dédicace fort édifiante à sa grandeur, et que j'ai lu récemment avec tant de plaisir. »
Elle n'était pas destinée à paraître, On l'a publié sans me prévenir,
murmura Rakitine, qui paraissait déconcerté.
C'est très bien. Un penseur comme vous peut et même doit s'intéresser aux phénomènes sociaux. Votre brochure, grâce à la protection de sa grandeur, s'est répandue et a rendu service. Mais voici ce que je serais curieux de savoir. Vous venez de déclarer que vous connaissiez intimement Madame Svietlov.
Nota bene, tel était le nom de la famille de Grushenka. Je l'ignorais jusqu'alors.
Je ne puis répondre de toutes mes connaissances. Je suis un jeune homme. D'ailleurs, qui le pourrait ?
Dit Rakitine en rougissant.
Je comprends parfaitement,
dit Fetioukovitch, feignant la confusion et comme empressé à s'excuser.
Vous pouviez, comme n'importe qui, vous intéresser à une femme jeune et jolie qui recevait chez elle la fleur de la jeunesse locale, mais je voulais seulement me renseigner. Nous savons qu'il y a 2 mois, Madame Svietlov désirait vivement faire la connaissance du cadet des Karamazov, Alexei Fyodorovitch. Elle vous avait promis 25 roubles si vous le lui ameniez dans son habit religieux. La visite eut lieu le soir même du drame qui a provoqué le procès actuel. Avez-vous reçu alors de Madame Svietlov 25 roubles de récompense? Voilà ce que je voudrais que vous me disiez.
C'est une plaisanterie. Je ne vois pas en quoi ça peut vous intéresser. J'ai pris cet argent par plaisanterie, pour le rendre ensuite.
Par conséquent, vous l'avez accepté. Mais vous ne l'avez pas encore rendu. Ou peut-être que si?
C'est une bagatelle, murmura Rakitine. Je ne puis répondre à de telles questions.
Certes, je le rendrai.
Le président intervint, mais le défenseur déclara qu'il n'avait plus rien à demander à M. Rakitine. Celui-ci se retira un peu penaud. Le prestige du personnage fut ainsi ébranlé, et Fetioukovitch, en l'accompagnant du regard, semblait dire au public « Voici ce que valent vos accusateurs ». Mitya, outré du ton sur lequel Rakitine avait parlé de Grushenka, cria de sa place « Bernard !» Quand le président lui demanda s'il avait quelque chose à dire, il s'écria « Il venait me voir en prison pour me soutirer de l'argent, ce misérable, cet athée. Il a mystifié sa grandeur. » Mitya fut naturellement rappelé à l'ordre. Mais M. Rakitine était achevé. Pour une toute autre cause, le témoignage du capitaine Sniegiryov n'eut pas non plus de succès. Il apparut dépenaillé, en costume malpropre, et, malgré les mesures de précaution et l'examen préalable, se trouva en état d'ivresse. Il refusa de répondre au sujet de l'insulte que lui avait faite Mitya.
« Que Dieu lui pardonne! Ilyusha l'a défendu. Dieu me dédommagera là-haut. »
« Qui vous a défendu de parler ?»«
Ilyusha, mon petit garçon. Papa, papa, comme il t'a humilié !» Il disait cela près de la pierre. « Maintenant, il se meurt. »
Le capitaine se mit tout à coup à sangloter et se laissa tomber aux pieds du président. On l'emmena aussitôt parmi les rires de l'assistance. L'effet escompté par le procureur fut manqué. Le défenseur continua à user de tous les moyens, étonnant de plus en plus par sa connaissance de l'affaire, jusque dans ses moindres détails. Ainsi, la déposition de Trifon Borisitch avait produit une vive impression, naturellement des plus défavorables à l'accusé. D'après lui, Mitya, lors de son premier séjour à Mokroïé, avait dû dépenser au moins 3 000 roubles. À peu de choses près, combien d'argent a été gaspillé rien que pour les tziganes? Quant à nos pouilleux, ce n'est pas des 50 kopecks, mais des 25 roubles au moins qu'il leur distribuait. Et combien lui en a-t-on volé? Les voleurs ne s'en sont pas vantés. Comment les reconnaître parmi de telles prodigalités? Nos gens sont des brigands dénués de conscience. Et les filles qui n'avaient pas de sous, elles sont riches maintenant. Bref, il rappelait chaque dépense et portait tout en compte. Cela ruinait l'hypothèse de 1500 roubles dépensés, le reste ayant été mis de côté dans le sachet.
J'ai vu moi-même les 3000 roubles entre ses mains, vu de mes propres yeux, et nous nous y connaissons, nous autres. »
Sans essayer d'infirmer son témoignage, le défenseur rappela que le voiturier Timothée et un autre paysan, Hakim, avaient trouvé dans le vestibule, lors du premier voyage à Maucroyer, un mois avant l'arrestation, 100 roubles perdus par Mitia en état d'ébriété, et les avaient remis à Trifon Borisitch, qui leur donna 1 rouble à chacun.
« Eh bien, avez-vous rendu alors cet argent à M. Karamazov, oui ou non ?»
Trifon Borisitch, malgré ses détours, avoua la chose, après qu'on eut interrogé les deux paysans, et affirma avoir restitué la somme à Dmitri Fiodorovitch.
« En toute honnêteté, mais étant ivre alors, celui-ci ne pouvait guère s'en souvenir. »
Or, comme il avait nié la trouvaille auparavant, sa restitution à Mitia, ivre, inspirait naturellement des doutes. De la sorte, un des témoins à charge les plus dangereux restait suspect et atteint dans sa réputation. Il en alla de même avec les Polonais. Ils entrèrent d'un air désinvolte en attestant qu'ils avaient « servi la couronne » et que Pan Mitia leur avait offert 3000 roubles pour acheter leur honneur. Pan Mussalovitz émaillait ses phrases de mots polonais et voyant que cela le relevait aux yeux du président et du procureur, il s'enhardit et se mit à parler dans cette langue. Mais Fetioukovitch les prit aussi dans ses filets. Malgré ses hésitations, Trifon Borisitch, rappelé à la barre, reconnut que Pan Wrublewski avait substitué un jeu de cartes au sien et que Pan Mussalovitz trichait en tenant la banque. Ceci fut confirmé par Kalganov lors de sa déposition, et les Panovi se retirèrent un peu honteux parmi les rires de l'assistance. Les choses se passèrent de la même façon, avec presque tous les témoins les plus importants. Fetioukovitch réussit à déconsidérer chacun d'eux et à les prendre en faute. Les amateurs et les juristes l'admiraient, tout en se demandant à quoi cela pouvait servir, car, je le répète, l'accusation apparaissait de plus en plus irréfutable. Mais on voyait, à l'assurance du « grand mage », qu'il était tranquille, et on attendait patiemment. Ce n'était pas un homme à venir de Pétersbourg pour rien et à s'en retourner sans résultat.
Chapitre 3. L'expertise médicale et une livre de noisettes.
L'expertise médicale non plus ne fut guère favorable à l'accusé. D'ailleurs, Fetioukovitch lui-même ne comptait pas trop là-dessus, comme on le vit bien. Elle eut lieu, au fond, uniquement sur l'insistance de Catherine Ivanovna, qui avait fait venir un fameux médecin de Moscou. La défense, assurément, ne pouvait rien y perdre. Il s'y mêla toutefois un élément comique par suite d'un certain désaccord entre les médecins. Les experts étaient le fameux spécialiste en question, le docteur Herzenstube de notre ville et le jeune médecin Varvinsky. Les deux derniers figuraient aussi en qualité de témoins cités par le procureur. Le premier appelé fut le docteur Herzenstube, un septuagénaire grisonnant et chauve, de taille moyenne, de constitution robuste. C'était un praticien consciencieux et fort estimé, un excellent homme, une sorte de frère morave. Depuis très longtemps établi chez nous, ses manières accusaient une grande dignité. Philanthrope, il soignait gratuitement les pauvres et les paysans, visitait les taudis et les chaumines, et laissait de l'argent pour les médicaments. En revanche, il était têtu comme un mulet, impossible de le faire démordre d'une idée. À propos, presque tout le monde en ville savait que le fameux spécialiste, arrivé depuis peu, s'était déjà permis des remarques fort désobligeantes sur les capacités du docteur Herzenstube. Bien que le médecin de Moscou ne prît pas moins de 25 roubles par visite, il y eut des gens qui profitèrent de son séjour pour le consulter. C'étaient naturellement des clients d'Herzenstube, et le fameux médecin critiqua partout son traitement de la façon la plus acerbe. Il finit par demander dès l'abord au malade en entrant « Dites-moi, qui vous a tripoté ? Herzenstube ?» Celui-ci, bien entendu, l'apprit. Donc, les trois médecins parurent comme experts. Le docteur Herzenstube déclara que l'accusé était visiblement anormal au point de vue mental. Après avoir exposé ses considérations, que j'omets ici, il ajouta que cette anomalie ressortait non seulement de la conduite antérieure de l'accusé, mais encore de son attitude présente. Et quand on le pria de s'expliquer, le vieux docteur déclara avec ingénuité que l'accusé, en entrant, n'avait pas un air en rapport avec les circonstances. Il marchait comme un soldat, regardant droit devant lui, alors qu'il aurait dû tourner les yeux à gauche où se tenaient les dames, car il était grand amateur du beau sexe et devait se préoccuper de ce qu'elle dirait de lui, conclut le vieillard dans sa langue originale. Il s'exprimait volontiers et longuement en russe, mais chacune de ses phrases avait une tournure allemande, ce qui ne le troublait guère, car il s'était imaginé toute sa vie parler un russe excellent, même meilleur que celui des Russes. Et il aimait beaucoup citer les proverbes, affirmant chaque fois que les proverbes russes sont les plus expressifs de tous. Dans la conversation, par distraction peut-être, il oubliait parfois les mots les plus ordinaires, qu'il connaissait parfaitement, mais qui lui échappaient tout à coup. Il en allait de même lorsqu'il parlait allemand. On le voyait alors agiter la main devant son visage comme pour rattraper l'expression perdue, et personne n'aurait pu le contraindre à poursuivre avant qu'il l'eût retrouvé. Le vieillard était très aimé de nos dames. Elle savait que, demeuré célibataire, pieux et demeure pure, il considérait les femmes comme des créatures idéales et supérieures. Aussi, sa remarque inattendue parut-elle des plus bizarres et divertit fort l'assistance. Le spécialiste de Moscou déclara catégoriquement à son tour qu'il tenait l'état mental de l'accusé pour anormal, et même au suprême degré. Il discourut savamment sur l'obsession et la manie, et conclut que d'après toutes les données recueillies, l'accusé, plusieurs jours déjà avant son arrestation, se trouvait en proie à une obsession maladive incontestable. S'il avait commis un crime, c'était presque involontairement, sans avoir la force de résister à l'impulsion qui l'entraînait. Mais, outre l'obsession, le docteur avait constaté de la manie, ce qui constituait, d'après lui, un premier pas vers la démence complète. Nota bene, je rapporte ces dires en langage courant. Le docteur s'exprimait dans une langue savante et spéciale. Tous ces actes sont au rebours du bon sens et de la logique, poursuivit-il, sans parler de ce que je n'ai pas vu, c'est-à-dire du crime et de tout ce drame. Avant-hier, en causant avec moi, il avait un regard fixe et inexplicable. Il riait brusquement et sans motif, en proie à une véritable irritation permanente et incompréhensible. Il proférait des paroles bizarres. Bernard, l'éthique et autre chose qu'il ne faut pas. Le docteur voyait surtout une preuve de manie dans le fait que l'accusé ne pouvait parler sans exaspération des 3 000 roubles dont il s'estimait frustré, alors qu'il restait relativement calme au souvenir des autres offenses et échecs subis. Enfin, il paraît que, déjà auparavant, il entrait en fureur au sujet de ces 3 000 roubles, et cependant on assure qu'il n'est ni intéressé ni cupide. Quant à l'opinion de mon savant confrère, conclut avec ironie l'homme de l'art, à savoir que l'accusé aurait dû en entrant regarder les dames, c'est une assertion plaisante, mais radicalement erronée. Je conviens qu'en pénétrant dans la salle où se décide son sort, l'inculpé n'aurait pas dû avoir un regard aussi fixe, et que cela pourrait en effet déceler un trouble mental. Mais j'affirme en même temps qu'il aurait dû regarder, non à gauche vers les dames, mais à droite, cherchant les yeux son défenseur, celui en qui il espère et dont son sort dépend. Le spécialiste avait formulé son opinion sur un ton impérieux. Le désaccord entre les deux experts parut particulièrement comique après la conclusion inattendue du docteur Varvinsky qui leur succéda. D'après lui, l'accusé, maintenant comme alors, était tout à fait normal. Si avant son arrestation il avait fait preuve d'une surexcitation extraordinaire, elle pouvait provenir des causes les plus évidentes. Jalousie, colère, ivresse continuelle, etc. En tout cas, cette nervosité n'avait rien à voir avec l'obsession dont on venait de parler. Quant à savoir où devait regarder l'accusé en entrant dans la salle, à mon homme la vie, il devait regarder droit devant lui, comme il l'avait fait en réalité, les yeux fixés sur les juges dont dépendait désormais son sort, de sorte que par là même il avait démontré son état parfaitement normal. Conclut le jeune médecin avec quelque animation. « Bravo, guérisseur !» cria Mitya. « C'est bien ça !» On le fit taire. Mais cette opinion eut une influence décisive sur le tribunal et le public, car tout le monde la partagea, comme on le vit par la suite. Le docteur Herzenstube, entendu comme témoin, servit inopinément les intérêts de Mitya. En qualité de vieil habitant, connaissant depuis longtemps la famille Karamazov, il fournit d'abord quelques renseignements dont l'accusation fit son profit, mais ajouta « Cependant, le pauvre jeune homme méritait un meilleur sort, car il avait bon cœur dans son enfance, et par la suite, je le sais. » Un proverbe russe dit « Si l'on a de l'esprit, c'est bien, mais si un homme d'esprit vient vous voir, c'est encore mieux, car cela fait deux esprits au lieu d'un. »
« On pense mieux à deux que tout seul !»
souffla avec impatience le procureur, qui savait que le vieillard, entiché de sa lourde faconde germanique, parlait toujours avec une lente prolixité, se souciant peu de faire attendre les gens.
« Eh oui, c'est ce que je dis !»
reprit-il avec ténacité. « Deux esprits valent mieux qu'un.
Mais il est resté seul et a laissé le sien.
Où l'a-t-il laissé ?»
« Voilà un mot que j'ai oublié, » poursuivit-il en agitant la main devant ses yeux. « Ah oui, spazieran. »«
Se promener ?»«
Eh oui, c'est ce que je dis. Son esprit a donc vagabondé et s'est perdu. Et pourtant, c'était un jeune homme reconnaissant et sensible. Je me le rappelle bien tout petit, abandonné chez son père, dans l'arrière-cour, quand il courait nu-pied, avec un seul bouton à sa culotte. »
La voix de l'honnête vieillard se teinta d'émotion. Fetioukovitch tressaillit comme s'il pressentait quelque chose.
« Oui, j'étais moi-même encore jeune alors, j'avais 45 ans et je venais d'arriver ici. J'eus pitié de l'enfant et me dis « Pourquoi ne pas lui acheter une livre de quoi ?» J'ai oublié comment ça s'appelle, une livre de ce que les enfants aiment beaucoup, comment est-ce donc ?»
Et le docteur agita de nouveau les mains.
« Ça croît sur un arbre, ça se récolte. »«
Des pommes ?»«
Oh non, ça se vend à la livre et les pommes à la douzaine. Il y en a beaucoup, c'est tout petit. On les met dans la bouche et craque. »«
Des noisettes ?»«
Eh oui, des noisettes. C'est ce que je dis, »
confirma le docteur imperturbable, comme s'il n'avait pas cherché le mot.
« Et j'apportais à l'enfant une livre de noisettes. » Jamais il n'en avait reçu. Je levai le doigt en disant « Mon garçon, Gott der Vater !» Il se mit à rire et répéta « Gott der Vater, Gott der Sohn !» Il rit de nouveau et gazouilla « Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist !»
Le surlendemain, comme je passais, il me cria de lui-même
« Monsieur, Gott der Vater, Gott der Sohn !»
Il avait oublié Gott der Heilige Geist, mais je le lui rappelais et il me fit de nouveau pitié. On l'emmena et je ne le vis plus. 23 ans après, je me trouvais un matin dans mon cabinet, la tête déjà blanche, quand un jeune homme florissant, que j'étais incapable de reconnaître, entra soudain, leva le doigt et dit en riant « Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist ». « Je viens d'arriver, et je tiens à vous remercier pour la livre de noisettes, car personne à part vous ne m'en a jamais acheté. » Je me rappelai alors mon heureuse jeunesse et le pauvre enfant nu-pied. Je fus retourné et lui dis «
Tu es un jeune homme reconnaissant, puisque tu n'as pas oublié cette livre de noisettes que je t'ai apportée dans ton enfance. » Je le serrai dans mes bras et je le bénis en pleurant. Il riait, car le Russe rit souvent quand il faudrait pleurer. Mais il pleurait aussi, je l'ai vu. Et maintenant, hélas. Et maintenant, je pleure, Allemand. Et maintenant, je pleure, homme de Dieu, cria tout à coup Mitya. Quoi qu'il en soit, cette historiette produisit une impression favorable. Mais le principal effet en faveur de Mitya fut produit par la déposition de Catherine Ivanovna, dont je vais parler. En général, quand ce fut le tour des témoins à décharge, le sort parut sourire à Mitya, inopinément pour la défense elle-même. Mais avant Catherine Ivanovna, on interrogea Alyosha, qui se rappela soudain un fait paraissant réfuter positivement un des points les plus graves de l'accusation. Chapitre 4. La chance sourit à Mitya. Cela se passa à l'improviste. Alyosha, qui n'avait pas prêté serment, fut dès le début l'objet d'une vive sympathie, tant d'un côté que de l'autre. On voyait que sa bonne renommée le précédait. Il se montra modeste et réservé, mais son affection pour son malheureux frère perçait dans sa déposition. Il le caractérisa comme un être sans doute violent et entraîné par ses passions, mais noble, fier, généreux, capable de se sacrifier si on le lui demandait. Il reconnut d'ailleurs que, vers la fin, la passion de Mitya pour Krouchenka et sa rivalité avec son père l'avaient mis dans une position intolérable. Mais il repoussa avec indignation l'hypothèse que son frère avait pu tuer pour voler, tout en convenant que ces 3 000 roubles étaient devenus une obsession dans l'esprit de Mitya, qui les considérait comme une partie de son héritage frauduleusement détournée par son père, et ne pouvait en parler sans se mettre en fureur. Quant à la rivalité des deux « personnes », comme disait le procureur, il s'exprima évasivement et refusa même de répondre à une ou deux questions. « Votre frère vous a-t-il dit qu'il avait l'intention de tuer son père ?» demanda le procureur. « Vous pouvez ne pas répondre si cela vous convient. » « Directement, il ne me l'a pas dit. »« Indirectement, alors ?» Il m'a parlé une fois de sa haine pour son père. Il craignait d'être capable de le tuer dans un moment d'exaspération. « Et vous l'avez cru ?» Je n'ose l'affirmer. J'ai toujours pensé qu'un sentiment élevé le sauverait au moment fatal, comme c'est arrivé, en effet, car ce n'est pas lui qui a tué mon père. » dit Alyosha d'une voix forte qui résonna. Le procureur tressaillit comme un cheval de bataille au son de la trompette. « Soyez sûr que je ne mets pas en doute la sincérité de votre conviction et la croix indépendante de votre amour fraternel pour ce malheureux. L'instruction nous a déjà révélé votre opinion originale sur le tragique épisode qui s'est déroulé dans votre famille. Mais je ne vous cache pas qu'elle est isolée et contredite par les autres dépositions. Aussi, j'estime nécessaire d'insister pour connaître les données qui vous ont convaincu définitivement de l'innocence de votre frère et de la culpabilité d'une autre personne que vous avez désignée à l'instruction. » « J'ai seulement répondu aux questions, » dit Alyosha avec calme. « Je n'ai pas formulé d'accusation contre Smerdiakov. »« Pourtant, vous l'avez désigné. » D'après les paroles de mon frère Dmitri, je savais que, lors de son arrestation, il avait accusé Smerdiakov. Je suis persuadé de l'innocence de mon frère. Et si ce n'est pas lui qui a tué, alors... C'est Smerdiakov. Pourquoi précisément lui? Et pourquoi êtes-vous si convaincu de l'innocence de votre frère? Je ne peux pas douter de lui. Je sais qu'il ne ment pas. J'ai vu d'après son visage qu'il me disait la vérité. Seulement d'après son visage? Ce sont là toutes vos preuves? Je n'en ai pas d'autres. Et vous n'avez pas d'autres preuves de la culpabilité de Smerdiakov que les paroles de votre frère et l'expression de son visage? Non. Le procureur n'insista pas. Les réponses d'Alyosha déçurent profondément le public. On avait parlé de Smerdiakov.
le bruit courait qu'Alyosha rassemblait des preuves décisives en faveur de son frère et contre le valet. Or, il n'apportait rien, sinon une conviction morale bien naturelle chez le frère de l'accusé. À son tour, Fetioukovitch demanda à Alyosha à quel moment l'accusé lui avait parlé de sa haine pour son père et de ses velléités de meurtre, et si c'était, par exemple, lors de leur dernière entrevue avant le drame. Alyosha tressaillit, comme si un souvenir lui revenait. « Je me rappelle, maintenant, une circonstance que j'avais complètement oubliée. Ce n'était pas clair alors, mais maintenant... » Et Alyosha raconta avec animation que lorsqu'il vit son frère pour la dernière fois, le soir, sous un arbre, en rentrant au monastère, Mitya, en se frappant la poitrine, lui avait répété à plusieurs reprises qu'il possédait le moyen de relever son honneur, que ce moyen était là, sur sa poitrine. « Je crus alors, poursuivit Alyosha, qu'en se frappant la poitrine, il parlait de son cœur, des forces qu'il pourrait y puiser pour échapper à une honte affreuse qui le menaçait et qu'il n'osait même pas m'avouer. À vrai dire, je pensais d'abord qu'il parlait de notre père, qu'il frémissait de honte à l'idée de se livrer sur lui à quelque violence. Cependant, il semblait désigner quelque chose sur sa poitrine, et l'idée me vint que le cœur se trouve plus bas, tandis qu'il se frappait bien plus haut, ici, au-dessous du cou. Mon idée me parut absurde, mais il désignait peut-être précisément le sachet où étaient cousus les 1500 roubles. « Précisément ? » cria soudain Mitya. « C'est ça, Alyosha, c'est sur lui que je frappais !» Fetioukovitch le supplia de se calmer, puis revint à Alyosha. Celui-ci, entraîné par son souvenir, émit chaleureusement l'hypothèse que cette honte provenait sans doute de ce que, ayant sur lui ses 1500 roubles qu'il aurait pu restituer à Catherine Ivanovna comme la moitié de sa dette, Mitya avait pourtant décidé d'en faire un autre usage et de partir avec Grushenka si elle y consentait. « C'est cela, c'est bien cela !» s'écria-t-il très animé. « Mon frère m'a dit à ce moment qu'il pourrait effacer la moitié de sa honte. » Il a dit plusieurs fois « la moitié », mais que, par malheur, la faiblesse de son caractère l'en empêchait. Il savait par avance qu'il en était incapable. « Et vous vous rappelez nettement qu'il se frappait à cet endroit de la poitrine ?» demanda Fetioukovitch. « Très nettement, car je me demandais alors « pourquoi se frappe-t-il si haut ? Le cœur est plus bas ?» Mon idée me parut absurde. Voilà pourquoi ce souvenir m'est revenu. Comment ai-je pu l'oublier jusqu'à présent? Son geste désignait bien ce sachet, ses 1500 roubles qu'il ne voulait pas rendre. Et lors de son arrestation à Mokroyé, n'a-t-il pas crié, à ce que l'on m'a dit, que l'action la plus honteuse de sa vie, c'est que, tout en ayant la faculté de rendre à Catherine Ivanovna la moitié de sa dette, précisément la moitié, il avait préféré garder l'argent et passer pour un voleur à ses yeux. Et comme cette dette le tourmentait, conclut Alyosha. Bien entendu, le procureur intervint. Il pria Alyosha de décrire à nouveau la scène et insista pour savoir si l'accusé, en se frappant la poitrine, semblait désigner quelque chose. Peut-être se frappait-il au hasard avec le poing. « Non, pas avec le poing !» s'exclama Alyosha. Il désignait avec les doigts une place, ici, très haut. Comment ai-je pu l'oublier jusqu'ici ? Le président demanda à Mitya ce qu'il pouvait dire au sujet de cette déposition. Mitya confirma qu'il avait désigné les 1500 roubles qu'il portait sur sa poitrine, au-dessous du cou, et que c'était une honte. Une honte que je ne conteste pas, l'acte le plus vil de ma vie. J'aurais pu les rendre, et je ne l'ai pas fait. J'ai préféré passer pour un voleur à ses yeux, et le pire... c'est que je savais à l'avance que j'agirais ainsi. Tu as raison, Alyosha. Merci. » Ainsi prit fin la déclaration d'Alyosha, caractérisée par un fait nouveau. Si minime fut-il, un commencement de preuve démontrant l'existence du sachet aux 1500 roubles et la véracité de l'accusé, lorsqu'il déclarait à Mokroyé que cet argent lui appartenait. Alyosha était radieux. Il s'assit, tout rouge, à la place qu'on lui indiqua,
répétant à part lui « Comment ai-je pu oublier cela? Comment ne me le suis-je rappelé que maintenant ?»
Catherine Ivanovna fut ensuite entendue. Son entrée fit sensation. Les dames prirent leurs lorgnettes, les hommes se trémoussaient, quelques-uns se levèrent pour mieux voir. On affirma par la suite que Mitya était devenu blanc comme un linge lorsqu'elle parut. Tout en noir, elle s'avança à la barre d'une démarche modeste, presque timide. Son visage ne trahissait aucune émotion, mais la résolution brillait dans ses yeux sombres. Elle était fort belle à ce moment. Elle parla d'une voix douce, mais nette, avec un grand calme, ou tout au moins s'y efforçant. Le président l'interrogea avec beaucoup d'égards, comme s'il craignait de toucher certaines cordes. Dès les premiers mots, Catherine Ivanovna déclara qu'elle avait été la fiancée de l'accusé jusqu'au moment où il m'abandonna lui-même. Quand on l'interrogea au sujet des 3 000 roubles confiés à Mitya pour être envoyés par la poste à ses parents, elle répondit avec fermeté. « Je ne lui avais pas donné cette somme pour l'expédier aussitôt. Je savais qu'il était très gêné à ce moment. Je lui remis ces 3 000 roubles à condition de les envoyer à Moscou, s'il voulait, dans le délai d'un mois. Il a eu tort de se tourmenter à propos de cette dette. » Je ne rapporte pas les questions et les réponses intégralement, me bornant à l'essentiel de sa déposition. J'étais sûre qu'il ferait parvenir cette somme aussitôt qu'il l'aurait reçue de son père, poursuivit-elle. J'ai toujours eu confiance en sa loyauté, sa parfaite loyauté, dans les affaires d'argent. Il comptait recevoir 3 000 roubles de son père et m'en a parlé à plusieurs reprises. Je savais qu'ils étaient en conflit et j'ai toujours cru que son père l'avait lésé. Je ne me souviens pas qu'il ait proféré des menaces contre son père, du moins en ma présence. S'il était venu me trouver, je l'aurais aussitôt rassuré au sujet de ces malheureux 3 000 roubles, mais il n'est pas revenu. Et moi-même, je me trouvais dans une situation qui ne me permettait pas de le faire venir. D'ailleurs, je n'avais nullement le droit de me montrer exigeante pour cette dette. Ajouta-t-elle d'un ton résolu. J'ai reçu moi-même de lui, un jour, une somme supérieure, et je l'ai acceptée sans savoir quand je serais en état de m'acquitter. Sa voix avait quelque chose de provoquant. À ce moment, ce fut au tour de Fetioukovitch de l'interroger. Ce n'était pas ici, mais au début de vos relations, demanda avec ménagement le défenseur, qui pressentait quelque chose en faveur de son client. Par parenthèse, bien qu'appelé de Pétersbourg en partie par Catherine Ivanovna elle-même, il ignorait tout de l'épisode des 5 000 roubles donnés par Mitya et du « salut jusqu'à terre ». Elle le lui avait dissimulé. Silence étrange. On peut supposer que, jusqu'au dernier moment, elle hésita à en parler, attendant quelque inspiration. Non, jamais je n'oublierai ce moment. Elle raconta tout, cet épisode, communiqué par Mitya à Alyosha, et le salut jusqu'à terre, les causes, le rôle de son père, sa visite chez Mitya, et ne fit aucune allusion à la proposition de Mitya de lui envoyer Catherine Ivanovna pour chercher l'argent. Elle garda là-dessus un silence magnanime et ne rougit pas de révéler que c'était elle qui avait couru, de son propre élan, chez le jeune officier, espérant on ne sait quoi, pour en obtenir de l'argent. C'était émouvant. Je frissonnais en l'écoutant. L'assistance était tout oreille. Il y avait là quelque chose d'inouï. Jamais on n'aurait attendu, même d'une jeune fille aussi fière et impérieuse, une telle franchise et une pareille immolation. Et pour qui? Pourquoi? Pour sauver celui qui l'avait trahi et offensé? Pour contribuer, si peu que ce fût, à le tirer d'affaire en produisant une bonne impression? En effet, l'image de l'officier donnant ses 5 000 roubles, tout ce qui lui restait, et s'inclinant respectueusement devant une innocente jeune fille, apparaissait des plus sympathiques. Mais mon cœur se serra. Je sentis la possibilité d'une calomnie par la suite. Et c'est ce qui arriva. Avec une ironie méchante, on répéta en ville que le récit n'était peut-être pas tout à fait exact sur un point, à savoir celui où l'officier laissait partir la jeune fille, soi-disant rien qu'avec un respectueux salut. On fit allusion à une lacune.
« Si même les choses se sont vraiment passées ainsi, » disaient les plus respectables de nos dames,
« on peut encore faire des réserves sur la conduite de la jeune fille. S'agit-il de sauver son père ?» Catherine Ivanovna, avec sa pénétration maladive, n'avait donc point pressenti de tels propos? Certes, si. Et elle s'était pourtant décidée à tout dire. Naturellement, ses doutes insultants sur la véracité du récit ne se manifestèrent que plus tard. Au premier moment, tout le monde fut ému. Quant aux membres du tribunal, ils écoutaient dans un silence respectueux. Le procureur ne se permit aucune question sur ce sujet. Fetioukovitch fit à Catherine un profond salut. Oh, il triomphait presque. Que le même homme ait pu, dans un élan de générosité, donner ses 5 derniers 1000 roubles et ensuite tuer son père pour lui en voler 3000, cela ne tenait guère debout. Fetioukovitch pouvait tout au moins écarter l'accusation de vol. L'affaire s'éclairait d'un jour nouveau. La sympathie tournait en faveur de Mitya. Une ou deux fois, durant la déposition de Catherine Ivanovna, il voulut se lever, mais retomba sur son banc, en se couvrant le visage de ses mains. Quand elle eut fini, il s'écria en lui tendant les bras, « Katia, pourquoi as-tu causé ma perte ?» Il éclata en sanglots, mais se remit vite et cria encore, « Maintenant, je suis condamnée !» Puis il se raidit à sa place, les dents serrées, les bras croisés sur sa poitrine. Catherine Ivanovna demeura dans la salle. Elle était pâle, les yeux baissés. Ses voisins racontèrent qu'elle tremblait comme en proie à la fièvre. Ce fut le tour de Grushenka. Je vais aborder la catastrophe qui causa peut-être en effet la perte de Mitya. Car je suis persuadée, et tous les juristes le dirent ensuite, que sans cet épisode, le criminel eût obtenu au moins les circonstances atténuantes. Mais il en sera question tout à l'heure. Parlons d'abord de Grushenka. Elle parut aussi tout en noir, les épaules couvertes de son magnifique châle. Elle s'avança vers la barre de sa démarche silencieuse en se dandinant légèrement, comme font parfois les femmes corpulentes, les yeux fixés sur le président. À mon avis, elle était très bien et nullement pâle, comme les dames le prétendirent ensuite. On assura aussi qu'elle avait l'air absorbée, méchant. Je crois seulement qu'elle était irritée, et sentait lourdement peser sur elle les regards méprisants, curieux de notre public, friand de scandale. C'était une de ces natures fières, incapables de supporter le mépris, qui, dès qu'elles le soupçonnent chez les autres, les enflamment de colère et les poussent à la résistance. Il y avait aussi, assurément, de la timidité et la pudeur de cette timidité, ce qui explique l'inégalité de son langage, tantôt courroucé, tantôt dédaigneux et grossier, dans lequel on sentait soudain une note sincère quand elle s'accusait elle-même. Parfois, elle parlait sans se soucier des suites. « Tant pis pour ce qui arrivera, je le dirai pourtant. » À propos de ses relations avec Fiodor Pavlovitch, elle observa d'un ton tranchant « Bagatelle que tout cela ! Est-ce ma faute s'il s'est attaché à moi ?» Un instant après, elle ajouta « Tout ça est ma faute. Je me moquais du vieillard et de son fils, et je l'ai poussé à bout tous les deux. Je suis la cause de ce drame. » On en vint à parler de Samsonov. « Ça ne regarde personne, » répliqua-t-elle avec violence. Il était mon bienfaiteur, c'est lui qui m'a recueilli nu-pied quand les miens m'ont jeté hors de chez eux. » Le président lui rappela qu'elle devait répondre directement aux questions sans entrer dans des détails superflus. Grushenka rougit, ses yeux étincelèrent. Elle n'avait pas vu l'enveloppe aux 3000 roubles et en connaissait seulement l'existence par le scélérat. « Mais tout ça, c'est des bêtises. À aucun prix je ne serais allée chez Fiodor Pavlovitch. »« Qui traitez-vous de scélérat ? » demanda le procureur.
Le laquais Smerdiakov, qui a tué son maître et s'est pendu hier.
On s'empressa de lui demander sur quoi elle basait une accusation si catégorique, mais elle non plus ne savait rien.
C'est Dmitri Fiodorovitch qui me l'a dit. Vous pouvez le croire. Cette personne l'a perdue. Elle seule est cause de tout,
ajouta Grushenka toute tremblante, d'un ton où perçait la haine. On voulut savoir à qui elle faisait allusion.
Mais cette demoiselle, cette Catherine Ivanovna, elle m'avait fait venir chez elle, offert du chocolat dans l'intention de me séduire. Elle est sans vergogne, ma parole.
Le président l'interrompit en la priant de modérer ses expressions. Mais enflammée par la jalousie, elle était prête à tout braver.
Lors de l'arrestation à Mokroyé, rappela le procureur, vous êtes accourue de la pièce voisine en criant « Je suis coupable de tout, nous irons ensemble au bagne ». Vous aussi le croyez donc parricide à ce moment ?
Je ne me rappelle pas mes sentiments d'alors, répondit Grushenka.
Tout le monde l'accusait. J'ai senti que c'était moi la coupable et qu'il avait tué à cause de moi. Mais dès qu'il a proclamé son innocence, je l'ai cru et le croirai toujours. Il n'est pas homme à mentir.
Fetioukovitch, qui l'interrogea ensuite, s'informa de Rakitine et des 25 roubles, en récompense de ce qu'il vous avait amené, Alexeï Fiodorovitch Karamazov.
Rien d'étonnant à ce qu'il ait pris cet argent,
sourit dédaigneusement Grushenka.
Il venait toujours quémander, recevant de moi jusqu'à 30 roubles par mois, et le plus souvent pour s'amuser. Il avait de quoi boire et manger sans cela.
Pour quelle raison étiez-vous si généreuse envers Monsieur Rakitin ? Reprit Fetioukovitch, bien que le président s'agitât.
C'est mon cousin. Ma mère et la sienne étaient sœurs, mais il me suppliait de n'en parler à personne, tant je lui faisais honte.
Ce fait nouveau fut une révélation pour tout le monde. Personne ne s'en doutait en ville, et même au monastère. Rakitine, dit-on, était rouge de honte. Grushenka lui en voulait, sachant qu'il avait déposé contre Mitya. L'éloquence de M. Rakitine, ses nobles tirades contre le servage et le désarroi civique de la Russie, furent ainsi ruinés dans l'opinion. Fetioukovitch était satisfait. Le ciel lui venait en aide. D'ailleurs, on ne retint pas longtemps Grushenka, qui ne pouvait rien communiquer de particulier. Elle laissa au public une impression des plus défavorables. Des centaines de regards méprisants la fixèrent lorsque, après sa déposition, elle alla s'asseoir assez loin de Catherine Ivanovna. Tandis qu'on l'interrogeait, Mitya avait gardé le silence, comme pétrifié, les yeux baissés. Ivan Fiodorovitch se présenta comme témoin.